multiplié par 1000. C'était vraiment une merveilleuse deux semaines que le Seigneur m'a permis. Quand vous savez, pour être, pour servir, pour donner, vous recevez 1000 fois plus que vous donnez. Ça, c'est un principe qui est tout le temps souligné dans la parole de Dieu. Celui qui fait tout ce qu'il fait, même dans le ministère, même prêcher, même enseigner un cours biblique, même quoi que ce soit, c'est le ego qui est devant. Il reçoit son salaire dans son ego et il n'est jamais satisfait, il n'est jamais heureux. Mais quand le Seigneur puisse vous débarrasser de votre ego et vous permettre d'être utilisé par lui, et ça vous arrive de temps à autre, pas tous les jours, et pas une seule journée probablement où vous êtes le plus altruiste possible, mais quand même des moments égoïstes sortent dans notre cœur et je l'ai ressenti plein de fois. De l'autre côté, j'ai ressenti vraiment la présence, j'ai ressenti vos prières. J'étais absolument sûr qu'il y avait des gens qui priaient pour moi dans une situation qui est différente, que j'ai l'habitude, culturellement, gastronomiquement, dans tous les sens. Et je savais, c'était extraordinaire pour moi. Il n'y avait jamais un moment, trois heures par jour, on a commencé à 7h30 le matin, j'ai enseigné pendant 2h, 30 minutes de pause, et puis mon collègue Scott, qui ne parlait pas du tout français, qui était traduit par Gédéon, qui était le directeur d'une grande lycée chrétienne, a traduit de l'anglais en français. Il a très 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 bien fait. Il enseignait pendant 2h. Et puis à midi, on mangeait, à 14h, j'ai fait encore 1 heure d'enseignement. Et Scott, encore 1 heure d'enseignement, et ça termine à 16h, j'ai dit 14h sur 16h, le soir. Et donc, 10 fois ça. Et je commençais par dire, il n'y avait jamais un moment, et ça c'était extraordinaire pour moi, il n'y avait jamais un moment où je ne sentais pas que je devrais être là, faisant sortir de ma bouche ce qu'il fallait sortir, l'éclaircissement, la capacité de communiquer, de parler la parole de Dieu, de vider un cœur qui était rempli d'envie, de être une bénédiction de Dieu aux gens. J'ai reçu, pas à moi, mais ça c'est venu dans le courrier de hier soir, Pasteur Takia, qui avait la responsabilité de l'organisation de tout ça, à M. Larry Fogel, qui était l'organisateur de cette formation et de cette organisation qui voyage partout dans le monde pour rassembler des pasteurs et de leur donner une formation encore plus élevée. Et je vais vous lire, pas tout en entier, il y a certaines choses qui ne vous concernent pas, mais ceci. À Dr. Larry Fogel, pendant 3 semaines, j'ai était occupé avec des activités très intenses. La première semaine était réservée pour l'Assemblée Générale des Églises Baptistes Mid-Mission. Les délégués des Églises et œuvres étaient plus de 400 personnes. Les 2 autres semaines étaient réservées à la formation de la théologie systématique enseignée par Dr. Scott Willicott et la vie et l'œuvre du pasteur enseignée par le pasteur Robert Bixby. Les participants inscrits étaient de nombre 165 personnes, sans compter les auditeurs libres, en tout 203 personnes, donc tous pasteurs ou pasteurs assurés. Les auditeurs libres ne vont pas avoir leur certificat. Voilà, ça, c'est rien à faire avec. Les leaders des églises étaient venus de tous les coins de Tchad. Cette formation était très intéressante, les gens ont beaucoup apprécié la formation, ils vous demandent de continuer cette formation très édifiante et très riche. Les orateurs vous présenteront les impressions et leurs impressions par région. Et puis après, pour ma part, je vous remercie vivement pour les fascicules que vous avez mis à notre disposition, ces deux cahiers comme ça. Les 165 participants ont chacun deux fascicules, donc en tout 303 copies, sans compter les copies des maîtres. Cette formation a été un grand événement dans nos églises au Tchad. Que Dieu vous donne la force, la santé, la disponibilité, le moyen pour continuer cette formation. C'était la première année de 3 ans de formation, donc j'avais le privilège juste d'être inséré pour une seule fois. Et puis, je remercie le Seigneur pour le privilège qu'il m'avait donné de pouvoir participer et de voir 200 personnes, 42 degrés, sur des bancs qui n'étaient que des planches, comme ça, 2 heures, 3 heures, 6 heures par jour, avec des notes, avec des cahiers, absorbant. Parce que pour la plupart, ces gens viennent des régions très provinciales, il n'y a pas d'électricité. Sarre, c'est la troisième plus grande ville. Il y a de l'électricité que dans le centre et pas toute la journée. Et puis, à l'extérieur du centre, il n'y a pas d'électricité. Quand il fait nuit, 6 heures du soir jusqu'à 6 heures le matin. Et pas de torche pour la plupart des personnes, pas de feu, pas d'éclairage. Ils vivent comme ça, de jour en jour. C'est un pays très, très, très pauvre. Mais un pays beaucoup musulmans aussi, on faisait très attention de ne pas faire trop de photos hors des églises. Dans les églises, dans les milieux chrétiens, il n'y avait pas de problème. Hors de ça, on risquait de causer des histoires. Donc, plein de choses que j'aurais voulu vous montrer, qui étaient très, très, très fascinants, intrigants. Et qui vraiment tirait les cordes, les émotions pour que l'évangile continue. Je remercie le Seigneur pour les 400 quelques églises baptistes avec notre 1000 missions qui sont vraiment solidaires pour la plupart. Ils sont en train de lutter, j'ai parlé de cela mercredi soir, contre certains enseignements non biblique qui entre, qui cherche à dérailler certaines églises, mais en gros, ils tiennent le coup, ils sont fidèles jour après jour après jour. Ils sont des gens qui sont en train de pratiquer leur foi à longue distance, qui est notre texte pour ce matin. Cet après-midi, donc, on va être tous ici pour. Je vais vous montrer des photos, je vais parler encore plus. Je risque d'aller un peu plus longue que 15 heures, donc si vous devez partir pour une raison ou l'autre, allez-y, n'hésitez pas. Mais j'ai un cœur rempli et j'ai beaucoup de choses à partager et pas mal de photos. Certaines sont très bonnes parce qu'elles ont été prises par mon collègue qui avait un appareil très professionnel. Et les autres par mon petit appareil, avec celui qui ne connaît presque rien du tout, et qui clique n'importe comment. Bon, ça c'était moi. J'aimerais bien que vous tourniez. Franchement, pour moi, c'est à propos qu'on arrive. Le dernier dimanche en novembre, on a parlé sur Hébreux chapitre 11, parce que je suis déterminé de finir le livre de Hébreux. Ça fait déjà un an et demi depuis que nous avions commencé, et puis on a eu pas mal d'interruptions pour différentes raisons. Mais nous avons dans 2 fois couvert un chapitre qui est probablement le chapitre le plus important pour aider des gens chrétiens dans leur combat spirituel par viser des personnes qui n'étaient pas extraordinaires parce qu'ils étaient convaincus que la le livre de Hébreux insiste que Dieu a parlé et les gens que nous voyons maintenant comme les héros de la foi, en Hébreux 11, n'étaient pas des super croyants. Ça, nous en avons déjà parlé. Ils croyaient et ils pratiquaient. Puis c'est tout. Ils croyaient. Et puis, ils étaient convaincus, comme le tout premier verset, qu'après avoir parlé autrefois par des prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par son Fils. Et en chapitre 4, verset 14, « Ainsi, croyait-il, puisque nous avons un souverain, un grand souverain sacrificateur, qui a traversé les cieux, pas n'importe qui, mais Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu. Alors, demeurons fermes dans la foi que nous professons. » Et nous apprenons en hébreu qu'il y avait des gens qui étaient professeurs de la foi, mais pas possesseurs de la foi. Mais les héros de la foi étaient ceux qui pratiquaient. Et le deuxième verset de chapitre 11 disait, pour l'avoir possédé, et l'apostrophe c'est quoi? Cette foi salutaire, cette foi qui possédait, et cette foi où les anciennes ont obtenu un témoignage favorable. Et je me demande, avez-vous la foi qui va obtenir un témoignage favorable de la part de Dieu? Est-ce que c'est ça ce que vous avez? Et ça, c'est une chose que nous devrions toujours rechercher à nous. Mais cette église, en hébreu, donc, tu peux tourner ça juste un tout petit peu, la machine en tout. Voilà, c'est bien. Cette église à qui l'apôtre écrit était une église fatiguée, était une église découragée, était une église qui avait entendu l'évangile depuis assez longtemps. Et nous le savons à cause de plusieurs versets. Je vais le mettre tout à la fois, si vous voulez noter cela. En chapitre 10, verset 32, l'apôtre va le dire. Souvenez-vous des premiers jours où vous avez été éclairés et vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. Avez-vous oublié ça? Chapitre 5, verset 12, il dit, depuis longtemps vous auriez dû être des maîtres, mais vous avez encore besoin que quelqu'un vous enseigne, il y a quelque chose qui ne va pas dans votre milieu, dit-il. Chapitre 2, verset 3, implique qu'ils étaient en train de négliger le grand salut qu'ils avaient appris. En chapitre 6, verset 5, il nous montre sur une liste de 5 autres choses. Il y a des gens qui avaient goûté la bonne parole de Dieu au milieu de l'église, qui avaient goûté les puissances du siècle à venir en vain. Semble-t-il, ils avaient tous les signes d'être un chrétien, mais il était vraiment possible et même vraiment probable que certaines parmi eux, et ça peut être le cas dans n'importe quelle église, baptiste, évangélique, chrétienne, protestant, quoi que ce soit, dans n'importe quelle église, il y a deux sortes de personnes. Certaines qui pendant même des années, aucune question par rapport à leur foi. Mais ils terminent par démontrer plus tôt ou plus tard qu'ils ont une profession sur une foi qu'ils ne possèdent pas. Ils croient certaines doctrines, comme Jacques 2,19 dit, Satan aussi, il croit toutes les doctrines. Avec plus de précision que vous, il ne se trompe pas dans son interprétation, probablement, sur plein de choses. Il est correct, il sait, mais il n'a pas une foi qui sauve. Ça, c'était leur cas, en chapitre 12, versets 12, 13 et 14, que nous n'avons pas encore arrivé, il va encore dire, Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse pour qu'il ne soit pas boiteux. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et dernièrement, nous avons vu 5 différentes caractéristiques des chrétiens qui avaient une foi qui n'était pas n'importe quelle foi. Tout le monde a une foi, mais cette foi est une foi divine. Cette foi est un don, Éphésiens 2, 8 et 9. Cette foi est une foi que Dieu donne gratuitement. Et c'est une foi qui anticipe l'avenir. C'est Jean, en chapitre 11, que nous avons vu et que vous devriez lire de temps en temps d'une manière régulière. Oh, c'est une chose que je ne fais pas assez. Mais je devrais lire cela. Le moment où un peu de découragement, ou un peu de lassitude, ou un peu de attitude de tourner les pouces et de lire les héros de la foi. C'était des gens qui anticipaient, c'est-à-dire tous ces verbes sont des verbes présents, continuels. Ils faisaient ça. Ils anticipaient. Ils anticipaient à 10h, à 11h, à midi, à 13h. Ils vivaient dans un contexte que tout ce que je fais dans le présent est en vue de l'avenir. Tout, tout, sans exception. Et sinon, ça ne devrait pas être fait. Et bien sûr, on arrive chez tout le monde à la fin de chaque journée. Et nous savons qu'il y avait des choses qui n'ont pas été vécues comme ça. Ils étaient deuxièmement, on voyait des personnes où le spot est mis sur leurs activités, sur leurs actions, en poursuivant l'avenir. La foi qui est divine, divinement donné par Dieu, à cette époque, à notre époque, est une foi qui travaille, qui agit, qui est toujours en pleine action, qui ne se flâne pas. Ah si, nous nous flânons souvent, et nous nous regradons même de temps en temps. Je ne veux pas donner l'impression que si vous n'êtes pas à 100% impliqué, visiblement de l'extérieur, oh non, tu sais, Dieu sait, tu as des hauts et des bas, il y a des moments où tu penses, comment se peut-il que je sois sauvé parce que ce que je viens de penser, ce que je viens de faire, cette manière que je viens de répondre, ou cette irritation que j'ai ressentie n'était pas de Christ. Ah oui, mais il y a un autre principe de vie quand même qui est derrière tout, et malgré la lutte contre la chair, le principe divin ne serait pas étouffé. Presque, semble-t-il, parfois, mais pas étouffé. Pourquoi ? Parce qu'il est éternel. C'est l'Esprit Saint qui a été mis en nous le moment de notre conversion. Si le moment que nous voyons était vraiment une conversion. Parfois, il faut mettre en question la validité de notre foi. Cette foi est une foi qui est constamment en train d'évaluer le présent contre l'avenir. Oui, les choses immédiatement réclament notre attention, insistent que nous soyons toujours préoccupés. Les smartphones et les ordinateurs et les iPhone et toutes ces choses comme ça, on n'a rien à faire, on regarde sur ça. Parce que on a cultivé la nécessité de alimenter ce désir, cette addiction d'être apaisé par rapport à l'immédiat. Il faut maintenant que je sois amusé. Il faut que je sois. Notre attention n'est jamais tournée vers les choses de Dieu. C'est une lutte que nous avons dans notre époque qui n'existait pas dans d'autres époques. Bon, ça venait d'autres manières, mais la foi que nous possédons, qui est une véritable foi, c'est une foi qui peut évaluer l'immédiat dans sa superficialité par rapport à l'avenir dans sa grande réalité et discerner. Non. Il vaut mieux laisser ça parce que le bon est souvent l'ennemi du meilleur, n'est-ce pas? Et ça n'est pas mauvais, ce n'est pas péché, mais il empêche le mieux. Vous faites des choses qui sont très bonnes, mais ils ne sont pas primordiales, ils ne sont pas ce qui est important pour vous, ils ne sont pas mauvais du tout, mais on n'a que 24 heures sur 24, mais on a 24 heures. On n'a que, mais on a. Qu'est-ce que nous faisons avec ça? La foi divine, salutaire, est une foi salutrice, est une foi qui évalue constamment, constamment, en train de peser, ce qui est exigé de moi maintenant par rapport à ce qui est exigé pour l'avenir. Qu'est-ce qu'il faut que je laisse de côté afin de ne pas empêcher ce qui est mieux? Et la foi risque le présent. Pas simplement il évalue, mais il prend une décision par rapport à son évaluation et il risque le présent en faveur de l'avenir. Et donc ça change entièrement notre rythme et style de vie, notre manière d'aborder les tâches quotidiennes, banales, une autre manière de voir les choses, une autre mentalité. Avec quoi on attaque ce qui arrive? Et puis, la foi persiste jusqu'au bout. Plus tôt ou plus tard, la foi qui n'est pas de Dieu est une foi qui va terminer par jeter l'éponge. Vous avez senti ça. En tant que chrétien, moi aussi, on dit, mais à quoi ça sert de continuer? Mais Dieu ne vous permet pas, et vous êtes toujours là, vous êtes présent aujourd'hui, comme la meilleure évidence qui existe que votre foi est vraiment authentique. Il n'y a aucune preuve. C'est pour ça qu'il faut examiner. Mais la meilleure évidence, c'est parce que malgré les épreuves, et malgré les choses qui arrivent, et malgré les chutes très fortes, vous n'êtes pas resté comme ça. Vous êtes remonté. Vous avez donné l'évidence qu'il y a de la vie de Dieu qui est à l'intérieur de vous. Et vous êtes là aujourd'hui parce que la flamme de la semence de Dieu est là. Voilà les caractéristiques en chapitre 11 que nous voyons. Et puis, juste ces deux premiers versets. C'est bien d'ouvrir vos Bibles, donc à Hébreux chapitre 12, versets 1 et 2. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Alors, quand je cherchais ça, je suis certain de vous, je suis en train de vous aider à penser aux phrases bibliques comme des phrases propositionnelles. Ils proposent quelque chose. Et j'ai trouvé 4 propositions dans ce verset. C'est-à-dire, il y a un sujet, il y a un verbe, il y a un sujet, un verbe, et si vous pensez l'indépendance de ces choses, par exemple, les 4 choses que je l'avais soulignées. Nous sommes environnés. Première. Deuxième. Rejetons-nous tout fardeau. Troisième. Rejetons-nous le péché. Quatrième. Courons avec persévérance. Donc, nous avons un indicatif qui dit nous sommes environnés, alors tout seul on ne peut pas savoir, mais nous avons environné de quoi? Environné d'une si grande nuée de témoins. Qui sont ces témoins? Souvent nous avons cette idée que nous sommes dans une arène, et en fin de compte, c'est un des mots qui est utilisé par un des traductions. J'en ai une douzaine de traductions que je cherche toujours à savoir. Mais nous avons l'idée que c'est comme un match de foot, c'est le match de la vie, et qu'il y a des milliers de personnes dans des bancs, et des gens qui nous applaudissent. Ils sont des gens qui sont déjà partis en avance, et maintenant ils sont morts, ils sont au ciel, ils sont en train de nous encourager ce n'est pas vraiment ça le sens que l'apôtre est en train de nous dire. Oui, les témoins sont là, mais on ne sait pas s'ils nous voient ou pas. Ce qu'il est en train d'enseigner, vous venez de voir ces témoins au chapitre 11, et vous venez d'apprendre qu'il n'y a que eux, il y en a d'autres, avant eux, pendant eux, et après eux, jusqu'à 2017. Il y a certains témoins comme ça. C'est vous qui témoignez quand vous regardez ces gens avec le haut et le bas. David est là. David qui a fait exprès l'adultère. Il est là quand même. Samson est là, qui a vécu une vie assez libertinage. Pas des excuses pour que les gens vivent dans le péché. Au contraire, c'est un encouragement qu'il n'y a aucune personne qui plaide et se repente de ce péché et qui reçoive Jésus-Christ et son sang efficace pour sauver ses péchés. C'est un encouragement. Qui que ce soit qui croit peut recevoir le salut, peut devenir un homme, une femme de foi. Rachab, la prostituée, est dans cette liste parce qu'elle s'était convertie, elle avait changé. Et puis, nous avons des mots de connexion incroyables, on n'aura pas le temps de voir, mais nous, donc, c'est souligné aussi, j'ai souligné, puisque nous soulignons, donc, est toujours là, parce qu'il y a quelque chose qui vient avant. Quand on commence par donc, nous attachons cette proposition, phrase, à une chose qui était en avance, et nous avons vu en avance, si vous avez vos bibles ouvertes, j'espère, que verset 39 de chapitre 11, tous ceux qui, les gens dans cette liste dont nous avons lu, tous ceux-là, à la fois, desquels il a été rendu témoignage, Dieu a témoigné, ils n'ont pas obtenu ce qui leur a été promis. Ils allaient vers une promesse, ils laissaient leur corps pour mourir, ils disaient au revoir sans voir la promesse. Ça ne leur décourageait pas du tout. Parce que, verset 40, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur, et pour eux, et pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Ils n'ont pas encore le corps. Leur corps reste dans le tombeau. Si vous mourrez aujourd'hui, votre corps sera en 3 jours dans un tombeau. Ça va rester là jusqu'à la dernière personne qui a pris le concours, et ça c'est le mot qui est utilisé. Nous aussi, nous sommes environ d'une grande nuée de témoins, rejetons le fardeau, le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière, le mot carrière. C'est le mot arène, dans une traduction, c'est le mot concours, dans une autre traduction, c'est le mot, plusieurs mots que je l'avais que j'ignore pour l'instant, mais c'est un mot qui veut dire, c'est pas combat, mais sportif. Il voulait que nous comprenions que c'est un combat. D'autre part, il dit, c'est un véritable combat jusqu'à la mort, le combat de la foi. Mais c'est comme une chose sportive qui est utilisée ici, et il veut que nous comprenions que nous sommes en plein travail de combattre et d'aller jusqu'au bout. Donc, ça c'est le donc. Et puis, aussi, il n'y a pas que eux, en chapitre 11, il y a aussi nous. Nous aussi, puisque, ça c'est puisque vient après. Puisque nous sommes environnés, pour la proposition grammaticale, nous sommes environnés. Mais puisque nous sommes environnés par une si grande nuée de témoins, qui sont les témoins, les gens en chapitre 11 et toutes les personnes qui ont couru ce concours jusqu'à maintenant, que nous regardons vers eux, pas c'est eux qui nous regardent vers nous, mais c'est nous qui regardons vers eux, cela étant le cas, trois impératifs, rejetons tout fardeau, rejetons tout péché. Les deux, ceux qui suivent après, appartiennent probablement, grammaticalement, à ces deux. Rejetons tout fardeau qui nous enveloppe. Quand? Si facilement. Si facilement. Il n'y a pas de... En Tchad, où j'étais dernièrement, la poussière nous enveloppe. Vous ne pouvez pas sortir et sans terminer par avoir de la poussière. Ça nous enveloppe. Ça se fait physique. On peut faire une douche, une ou deux par jour peut-être, mais spirituellement, il y a des fardeaux neutres moralement. C'est pas de mauvais. C'est pas un péché. Mais quand même, c'est un fardeau. J'ai lu une histoire d'Alexandre le Grand qui avait vaincu le monde et les soldats ont accumulé beaucoup de butin et ils commençaient à se battre mal, commençaient à ne pas gagner. Et à un moment donné, Alexandre le Grand a commandé que tous les butins soient ramassés et ils ont brûlé le tout. Et les soldats, ils étaient très 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 déçus, mais ils terminaient par mieux combattre après. Il y a des choses dans notre vie quotidienne qui ne sont pas péchés, mais ils sont fardeaux quand même. Ils ne contribuent pas à notre vrai but. Et nous sommes ici pour faire ça. Est-ce que ce que je fais contribue pour que je connaisse mieux Jésus-Christ? Qui c'est qui pourrait voter? Laissez tomber ça, ce n'est pas mauvais, mais tu peux quand même prendre 30 minutes pour la lecture de la parole de Dieu et pour quelques réflexions sur les propositions dans la parole de Dieu qui peuvent vous éclairer par rapport à une personne que vous aimeriez beaucoup. Aimez mieux voter. 30 minutes avec Dieu, 30 minutes faisant des jeux électroniques. Pour que non simplement est-ce que vous avez perdu 30 minutes, mais vous avez acclabé le cerveau avec beaucoup de choses qui rend incapable la réflexion utile, fructueuse sur les choses qui comptent le plus pour ceux qui aiment le Seigneur. Donc, courons. Ça, c'est juste une question de fardeau, pas péché, mais aussi de péché. Oh là là, comme ça arrive à la fin de chaque journée, si nous regardons avec et nous faisons le bilan de notre journée même, de comprendre, oh Seigneur, tu demandes la perfection, j'étais très loin de parfait. Mais le sang de Jésus-Christ est mort pour le péché que j'ai commis aujourd'hui, je l'accepte, je le reçois avec reconnaissance, merci de sauver Robert aujourd'hui des péchés d'aujourd'hui. On a besoin de faire ça. Et la purification, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste de nous purifier de tout péché, de nous pardonner tout péché, de nous purifier de toute iniquité, il dit. Et puis, courons, c'est la quatrième proposition que je vois. Courons. Ça, c'est le verbe. Le verbe, c'est vous, ou nous, courons-nous. Rejetons-nous, courons-nous, j'aurais dû mettre ça comme ça, avec persévérance, dans la reine, dans le concours, dans le stade, dans la carrière, qui nous est ouverte. Le mot ouverte, c'est un mot qui veut dire qui nous a été placé. Dieu a placé la route devant nous. Dieu a dit, vous allez aller comme ça, il n'y a pas de ça, il n'y a pas de ça, il y a ça. Je vous place sur le concours, allez-y! Et puis vous partez en courant, c'est pas marcher, c'est pas flâner, c'est pas promener, c'est marcher. Un courant avec persévérance, les yeux fixes. Alors, ça c'est vraiment la prochaine chose en chapitre 2, en verset 2. Ayons les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi,
qui ont vu de la joie qui lui était réservée à souffrir la croix, mépriser l'ignominie et s'est assise à la droite de Dieu. Et j'ai trouvé 5 différentes propositions dans ce verset. J'aimerais bien que vous appreniez à faire ça. Quand vous lisez, je vous ai dit déjà, Dieu a décidé de communiquer du ciel à l'humanité par 3 mots, vocabulaire, grammaire, syntaxe. J'aime pas la grammaire. J'aimais pas longtemps la grammaire non plus. Ça m'intrigue maintenant, de plus en plus. Mais Dieu communique comme ça. Il n'est pas mystique. Il ne communique pas par des sentiments. Il communique grammaticalement. Il fait une condescendance à notre petit système de communiquer, de se comprendre les uns les autres, pour utiliser notre vocabulaire et notre grammaire et notre phrase et paragraphe et thème de développer. Dieu développe les thèmes bibliques que nous devons absolument saisir. Dieu, et il y a 3 choses. Il y a 3 choses. Dieu, laissez ça à côté juste un instant, vous lisons les 5 propositions dans cette phrase. Nous avons le regard sur Jésus. Jésus avait le regard sur une joie qui lui était réservée. Jésus a souffert, Jésus a méprisé, Jésus est assis à la droite de Dieu. Trois choses en 10 minutes et on va finir. Parce que vous êtes fatigué, parce que vous avez tendance de juste flâner, parce que, dit l'auteur de l'Hébreu, vous avez distancé de l'Évangile sur un moment donné, vous étiez très très zélé. Vos parents, au moins vos grands-parents, ils ont vu Jésus. Certains de vous, vos parents ont vu Jésus. Vous, jamais. C'est maintenant la 3e génération. Mais maintenant, vous acceptez ça, oui, c'est ma religion, c'est ma foi, oui, c'est ma confession de foi, oui, je signe mon nom, au fond, nous sommes obligés, en tant que missionnaires avec la tête de mission, chaque année, de signer notre signature pour être sûr qu'on est toujours sur la même page, doctrinalement. J'admets, à travers les années, parfois, je ne regarde pas, je signe, parce que rien n'a changé. Je cherche à être plus prudente maintenant, mais beaucoup de chrétiens, ça c'est la chose très 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 dangereuse de s'assimiler dans une assemblée où vous n'êtes pas en désaccord avec quoi que ce soit par rapport à la doctrine, par rapport à l'enseignement biblique. Mais ça passe dans un œil, dans une oreille, qui sort par l'autre, pour ainsi dire, comme mon père avait toujours dit quand il me dit et je ne l'écoute pas. Je n'encaisse pas ça ici. Et ça, c'est très, très, très dangereux. Et puis, on devient stoïque, on devient, ah oui, on va régler ça, on va ajouter du rythme, on va ajouter beaucoup de musique, on va ajouter beaucoup d'électronique pour qu'on fasse comme ça. Puis, voilà, ça, c'est vivant, c'est des corps morts qui bougent. Dans le monde autour de nous, il y a beaucoup de fêtes comme ça. Et dans les églises, des gens qui sont autant morts dans leur gémissement que les gens stoïques qui sont aussi morts dans leur mieux mourir en sautant que de en en pas. Si ça c'est le meilleur critère qui pourrait être donné. Une chose qui est très dangereuse, et ils pensent, beaucoup de ces gens, qui bougent beaucoup, on a la vie! Non, Satan bouge comme ça, Satan saute comme ça, Satan parle en langue, Satan fait toutes ces choses! Je ne dis pas que ces choses, en soi, sont immorales ou mauvaises, mais elles ne sont pas salutaires. il ne sauve pas. Et les choses qui semblent être une évidence de salut ne sont pas forcément ça. Hébreux chapitre 6 a démontré ça, cette liste de toutes les choses où on dirait, comment est-ce que ça peut être le cas que ces choses existent et que cette personne n'est même pas sauvée? Il est possible. Il dit, oh donc, reprendre le travail, prendre vos bras, vos jambes languissantes, chapitre 12, nous avons lu, et regardez à ces témoins dans le passé. Lisez d'une manière régulière Hébreux chapitre 11, lentement, pause après les virgules. Regardez vers le haut, Jésus, c'était dans le verset, n'est-ce pas? Les regards sur Jésus. Il est le chef ou l'auteur et le consommateur. Une version est très très claire. Il a aussi entré dans ce concours. Il était aussi dans cette lutte. Il a vécu 33 ans en plein combat, en train de courir, avec, troisièmement, la joie qui était devant lui. Et nous sommes appelés à imiter Jésus-Christ. Comment ça se fait que Jésus allait jusqu'au bout? Il allait jusqu'au bout parce qu'il avait ce regard sur la joie qui lui était réservée, et jamais une seule fois. Et notez ce que ça lui a fait faire. Ça lui a fait souffrir dans son corps et angoissé dans son âme. Il souffert horriblement, corporellement, la peine de la croix. Mais pire que ça, dans son âme, il a méprisé l'ignominie, la moquerie, la honte, être le roi des rois nu sur une croix avec des gens qui se blasphèment et qui crient, et le respect sans crier. Pourquoi? Parce que il avait ses yeux fixés sur une joie qui était beaucoup, beaucoup plus forte et sûre que ça. Et il dit, faites-vous pareil. Nous aurons les regards sur Jésus, le chef, ayant les regards, le chef, l'auteur, le commenceur et le consommateur de notre foi, de notre foi. Et puis Jésus avait le regard sur la joie qui lui était réservée. Par qui? Par le Père. Les yeux fixés sur le Père, Jésus disait, je ne dis jamais quoi que ce soit, il n'y a rien qui sorte de ma bouche qui n'est pas les paroles de mon Père. Il n'y a aucune irritation, colère, être mis à l'écart par des docteurs de la loi, et lui n'était qu'un provincial, avec un accent qui démontrait qu'il est nul. Aucune irritation, aucune démonstration que non, moi je suis très... Non, il ne se mettait pas le soi devant comme nous. Ça c'est mon problème, ça c'est votre problème, ça c'est chacun de nous. Jésus-Christ, celui qui a vaincu le soi, qui a vaincu le péché parce qu'il est devenu péché. Je n'ai pas dit pécheur. 2 Corinthiens 5, 21. Christ est devenu péché pour que nous puissions vivre et pas mourir. Il est devenu péché. Il a vécu 33 ans, attaqué, humilié, abattu, marginalisé, mis à côté, tous pour qu'il se semble maltraité, ignominieusement méprisé. Il a terminé par avoir un mépris pour tout ça. Parce que ceux qui étaient ici étaient mille fois plus forts que la terrible souffrance sur la croix et l'ignominie qu'il devait lutter dans sa psychique afin que Robert et qui que ce soit soit sauvé et qu'il entre dans la carrière que Dieu nous a donnée. Ça, c'est ce que je vois dans ces deux versets. Après cet encouragement des chapitres 11 de toutes ces personnes, on devrait prendre le temps de le lire. Mais je vous laisse le faire, ça va prendre trop du temps. Mais à la maison, pourquoi pas lire ça plusieurs fois, lentement. Et puis sachez que ça continue dans les prochains versets. Ces gens, Abraham, Isaac, Joseph, Sarah, David, les prophètes, Noé, toutes les personnes mentionnées ici, attendent leur perfection. Ils ne sont pas complètes. Ils sont au ciel, mais ils ne sont pas complets. Leur corps reste dans la terre. Ils attendent que moi, que vous, croyants, arrivent, ayant complété la course, et devient un témoin pour que les autres qui vous regardent, que vous ne le savez même pas, les plus jeunes qui vous regardent, vous avez 16 ans, il y a des gens de 6 ans qui vous regardent comme l'homme ou la femme absolument parfaite. Je veux être comme Sona, Michel, je veux être comme elle, comme eux. Et ce que vous faites, ils vont vous le faire. On ne peut pas échapper. C'est le monde dans lequel nous vivons, qui nous attire vers le bas, mais le principe éternel dans la semence de l'Esprit de Dieu placé dans le cœur du croyant va persévérer, persévérer, persévérer. Même quand vous vous sentez prêt à être submergé et noyé, vous n'allez pas, parce que vous allez faire encore un autre poussée, puis vous allez revoir la vie. La vie chrétienne est merveilleusement comme ça. Quand quelqu'un dit « Oh, comme la vie est dure !» Mais « Oh, comme la vie dure est belle !»